Bonjour tout le monde et bienvenue autour de la table du débat de midi. Nous avons bien éloigné les chaises pour qu'on soit à un mètre de distance et comme on a désormais tous pris l'habitude de le dire, on se salue de loin, hein, avec le sourire et le petit signe de tête qui vont bien. Gestes barrières et distanciation sociale sont devenus notre quotidien, le masque une nouvelle partie de notre visage. Après le confinement, c'est notre corps que nous devons maintenant isoler à l'extérieur, car le virus est toujours là, vous le savez. Ce corps potentiellement dangereux pour l'autre, qu'il faut donc éviter au maximum de toucher. Une reprogrammation tactile à intégrer, pas facile. Le toucher est le premier sens que nous développons, mais pas le choix. Cette situation nous pousse à réinventer nos liens sociaux et affectifs en reléguant l'expérience physique au second plan. Peut-on vivre sans se toucher? Question qu'on explore ensemble jusqu'à 13h à table.
Camille Cronier, le débat de midi sur France Inter.
Et je vous présente tout de suite mes quatre invités du jour. Ève Berger, bonjour. Bienvenue
bonjour.
Sur France Inter. Vous êtes psychomotricienne, chercheuse en psychopédagogie perceptive. Et alors, vous utilisez le corps pour aider les personnes à se réaliser professionnellement. Je trouve ça très étonnant.
Oui, tout à fait. C'est cela même.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'à travers le corps, on peut s'affirmer un peu dans le... Eh bien, parce dans le milieu professionnel.
Parce que notre corps, qui dans notre société est surtout valorisé comme objet, soit esthétique, soit utilitaire, et justement comme objet, est rarement valorisé, considéré comme lieu de sensibilité et d'intelligence. Or, il y a une manière d'habiter son corps qui en fait permet de déployer tous ses potentiels de présence corporelle à l'autre et au monde et à soi-même.
Et on va en parler. Il y a Bernard Andrieux à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Philosophe du corps, je peux le dire comme ça.
Tout à fait.
Professeur à l'Université de Paris. Vous avez écrit notamment La langue du corps vivant. Ça vous passionne le corps?
Mais c'est-à-dire que là, avec le Covid, on est vraiment confronté à une émergence dans notre corps vivant de quelque chose qui va transformer finalement notre conscience du corps vécu, la manière de toucher les autres, d'être en contact finalement avec les autres. Donc il faut vraiment réfléchir sur cette interaction entre les deux.
Bonjour également à Michael Stora.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On parlera en particulier du rôle du virtuel avec vous, qui a été très important ces derniers mois.
Oui, il semblerait, non? J'ai l'impression que nous étions tous en distanciel, et la question de la présence se reposait.
En duplex de France Bleu Alsace à Strasbourg, l'anthropologue et sociologue David Le Breton, bonjour.
Bonjour Camille.
Vous venez d'écrire « Marcher la vie, un art tranquille du bonheur ». Mais alors, moi le livre que vous avez écrit qui m'intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est « Les passions ordinaires, une anthropologie des émotions » dans lequel vous analysez le statut du corps dans la communication. Il y a, David Le Breton, des rituels bien précis.
Oui, on en parlera évidemment pendant toute l'émission. Il y a des gestes d'accueil, il y a des gestes de congé. Quand nous parlons avec quelqu'un, nous sommes également à une certaine distance, hein, ce qu'on appelle parfois la proxémie en anthropologie. La proxémie, donc, c'est la distance d'interaction qui varie d'ailleurs d'une société humaine à une autre. On peut être, elle est pas très importante, hein, c'est 70, 80 centimètres, par exemple, dans nos sociétés. Mais un mètre, vous voyez, ce mètre de distance physique, nous incommode un petit peu parfois, on a le désir de se rapprocher un peu du visage de l'autre. Voilà, bon, ceci dit, il y a aussi des sociétés latines par exemple, où on est beaucoup plus rapproché quand on se parle.
Ouais, et d'autres où on est plus éloigné, on le verra aussi. Bernard voilà. Andrieux, ne plus pouvoir se toucher, c'est à l'opposé de la nature humaine?
En tout cas, l'expérience du tactile, du toucher, vraiment au départ de la formation même du contact dès la naissance, hein, c'est-à-dire que bien évidemment on a été conditionné dans cette intertactualité entre le corps de la mère, le corps des parents, le corps de l'enfant et aussi la relation de l'enfant avec le monde extérieur. Donc sans cette expérience physique, finalement, il n'y a pas possibilité de pouvoir se représenter le monde ou en tout cas de pouvoir envisager des modalités de relation, d'interrelation, voire d'intercorporéité avec les autres.
Ève Berger, vous qui touchez des gens en permanence, j'imagine, dans votre travail de psychomotricienne, vous faites comment aujourd'hui?
Alors, dans mon travail d'accompagnement, en fait, puisque aujourd'hui je ne suis plus psychomotricienne à proprement parler, disons que le toucher, pour moi, bien sûr, en ce moment, on ne peut plus directement toucher les personnes. Cela dit, Le toucher est une incroyable, en fait, écoute de la relation qui nous apprend, quand on a eu le toucher au cœur de son métier comme moi pendant toute ma vie, qui nous apprend à mettre en jeu, en fait, une sensibilité intérieure du corps qui se situe, elle, bien en dessous de la peau et qui concerne toute la globalité de l'intériorité subjective du corps. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut continuer à mettre en œuvre dans nos relations aujourd'hui. Et je pense que tout à l'heure, on en reparlera plus profondément.
Avec cette question, donc, aujourd'hui, peut-on vivre sans se toucher? J'attends aussi, chers auditeurs, vos témoignages sur l'application France Inter et sur Twitter, le mot-clé débat de midi. Émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Sophie Hoffmann et Jules Thomas. Et c'est Alexandre Chénet à la technique. Avec épaule tatou, bien trouvé pour parler de toucher aujourd'hui dans le débat de midi.
How amazing is this? But I can give you a hug and I'm not touching you. But it feels like I am touching you.
Alors ce qu'on entend, c'est un Anglais en train de serrer sa grand-mère dans les bras grâce à un rideau à câlins qu'il a fabriqué lui-même. C'est un rideau de douche. Il a mis quatre tubes en plastique pour qu'il puisse se prendre dans les bras. Il ne la touche pas, mais il a l'impression de la toucher, dit-il à sa grand-mère. La vidéo a été vue 5 millions de fois, plus de 5 millions de fois. Bernard Andrieux, pourquoi est-ce que cette aptophobie forcée, hein, la crainte de toucher ou d'être touché. Pourquoi est-ce qu'elle est si difficile à vivre pour certains ?
Bien, parce que c'est toujours une privation sensorielle, hein. C'est-à-dire, on a l'impression, bien évidemment, Ève et David et Michael vont le préciser aussi, c'est que, en réalité, il y a plusieurs dimensions dans le toucher. Il y a la dimension sensorielle physique, dans lequel, comme disait Merleau-Ponty, je suis un touchant touché. Quand je touche quelque chose, je suis en même temps touché par la matière, par la personne. Et donc, si je peux plus faire ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de contact. Alors qu'en réalité, il y a le toucher physique, mais en réalité, je peux être en contact avec quelqu'un. Mmh. Alors à travers un rideau de douche, hein, bien évidemment, oui. Ou à travers un écran, et aussi être touché, être affecté
par des paroles,
par des sons, par voilà. Donc il y a toute une physicalité et une virtualité que moi je n'oppose pas. Il me semble qu'en réalité, il y a vraiment des différences de degrés. Simplement, aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, il y a un risque sur le toucher physique, voire même un petit peu à distance, étant donné ce que les scientifiques démontrent sur les gouttelettes d'eau. Mais pour autant, on vit ça comme une carence, comme un manque. Et c'est ça aussi la question du confinement.
Et d'où vient Ève Berger, spécialiste de l'intelligence du corps, d'où vient ce sentiment, ce ressenti qu'on a quand on serre quelqu'un très fort dans les bras, surtout quand on l'a pas vu depuis longtemps ?
Ah ben là, comme vient de le dire Bernard, il y a de multiples dimensions dans le toucher. Donc ce sentiment qui vient, il vient d'une transmodalité. Il y a plusieurs modalités qui sont ensemble en jeu. Donc il y a déjà le contact sur la peau. Et alors évidemment, avec un rideau de douche entre deux,
c'est pas tout à fait
moins facile. Mm-hmm. Via un écran, c'est autre chose. Mais quand on serre quelqu'un, il y a des tas d'effets sur le plan hormonal. C'est une stimulation du système immunitaire. C'est une reconnaissance de soi et de l'autre. C'est une expérience de la relation. Et moi, j'ai même envie de dire, c'est le média, le véhicule de l'amour que l'on se porte. Et pas seulement l'amour filial ou l'amour pour un conjoint ou pour pas seulement l'amour sentimental, mais moi, je crois profondément l'amour. Ça, c'est ce que mon expérience de la fasciathérapie m'a appris et m'a fait vivre. La fasciathérapie, pour les auditeurs, c'est pas la thérapie des fascias. C'est pas la thérapie de la face, c'est la thérapie des fascias, un tissu connectif dans le corps qui est en fait la matrice architecturale de toute la matière vivante du corps. Et en fait, quand on serre quelqu'un dans ses bras, c'est toute cette reconnaissance de l'amour qui circule en fait dans un corps vivant et qui passe d'un corps à l'autre dans ce contact par le toucher, mais qui peut aussi se reconnaître, même sans toucher, à distance, par un phénomène de présence, de capillarité ou de contagiosité de la présence.
Alors, Michael Stora, est-ce que justement, cette question d'ailleurs, peut-on vivre sans se toucher, évidemment, au sens physique, la relation physique est au cœur aujourd'hui de notre société, en tout cas en France ?
Oui, alors c'est intéressant ce qu'on
c'est a... C'est la seule ?
Non, évidemment, je crois qu'on a pu voir à quel point le toucher n'est pas uniquement lié au tactile en lui-même. Mais ce qui est vrai, c'est que pour revenir un peu à la genèse, l'enfant, puisque le terme de transmodalité a été évoqué, qui est un concept très intéressant, j'ai travaillé beaucoup sur l'autisme, et l'autisme, à travers sa pathologie, nous renseigne d'une certaine manière sur l'importance du fait que nous avons 5 sens, comme vous le savez, avec lesquels nous naissons, mais que finalement, c'est dans une expérience sensori-affectivo-motrice que ces 5 sens vont s'unifier. Et à partir de ce moment-là, vous avez l'impression que votre corps est unifié et vous pouvez aborder l'abstraction. On pense peut-être que l'autisme est une sorte de pathologie de sensorialité morcelée. Donc ça veut dire que ce surinvestissement que nous avons dans notre société du visuel et de l'auditif, depuis un bon moment, a une tendance à finalement mettre de côté quelque chose d'essentiel dans notre rapport au fait qu'on a l'impression d'être en contact avec l'autre, c'est-à-dire le toucher, le goûter, le senti, qui renvoie en effet au premier temps de la relation à la mer.
Alors, on va donner la parole à David Le Breton à Strasbourg, qui, en tant que sociologue et anthropologue, vous parlez, David Le Breton, d'aseptisation du lien social. Ça veut dire quoi ?
Alors d'abord, j'aimerais rappeler qu'il n'est pas besoin de se toucher pour être en contact, évidemment, hormis, bien entendu, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses, où là, la tactilité est absolument permanente. Mais finalement, dans nos interactions, dans nos rites d'interaction, on touche extrêmement peu l'autre. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de parler d'effacement ritualisé du corps. Un grand écrivain autrichien, Elias Canetti, parle même de la phobie du contact dans nos sociétés occidentales. Donc il faut, pour pouvoir toucher l'autre, finalement, qu'il y ait une autorisation. Une autorisation que nous donnent les rituels. C'est-à-dire, par exemple, la poignée de main, la bise, la collade, parfois le fait de poser sa main sur le bras de l'autre, etc.
La bise, pardon, parfois, on n'a pas l'autorisation forcément avant qu'on nous la fasse, hein, mais bon.
C'est vrai. Non, vous avez raison. Mais en tous les cas, vous voyez, c'est très... En fait, on se touche extrêmement peu dans les relations sociales, hein, et de manière extrêmement conventionnelle. Donc, je ne suis pas sûr que ça nous manque énormément aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir toucher l'autre. Ce qui nous manque, c'est plutôt la présence de l'autre. Parce que le contact, il est là. Et d'ailleurs, la langue française le dit merveilleusement en empruntant au vocabulaire cutané ou au vocabulaire tactile ce qu'il en est de la qualité de la relation qu'on a avec un autre. Hein, par exemple, on va dire ce que tu m'as dit m'a touché, j'ai été bouleversé. On dit de quelqu'un qu'il a fleur de peau, on caresse des gens dans le sens du poil, etc. Et puis même dans l'amour, on a quelqu'un dans la peau. Mmh. Hein, vous voyez, donc on n'est pas forcément là dans une relation physique, dans une relation tactile à l'autre. Il peut y avoir la distance, mais il y a tout un courant d'émotions, d'affectivité qui fait qu'on est vraiment en contact.
Alors, je vais juste ajouter un chiffre par rapport à ce que vous disiez, David Le Breton. Une enquête de la plateforme Kappa, 72% des répondants ne feront plus la bise aux collègues. Eve Berger, le corps peut être un frein, et pourquoi ?
Alors, j'étais en train de... Mais je vais relier les deux questions.
Oui.
Je voulais rebondir sur ce que disait Michael tout à l'heure à propos des cinq sens pour rappeler que je trouve toujours ça triste en tant que docteur en sciences de l'éducation de savoir qu'à l'école primaire, on apprend encore à nos enfants que l'être humain a cinq sens. Alors qu'en fait, l'être humain a très officiellement six sens, et que le sixième sens n'est pas une intuition magique ou un petit peu ésotérique, mais que c'est le sens du corps en mouvement. Et que ce sens, il a été découvert et il est reconnu scientifiquement depuis la fin du 19e siècle. Et qu'en fait, on est en train de parler du toucher, mais que le toucher n'est rien sans le mouvement. C'est-à-dire ce qui touche et qui permet de toucher et d'être touché, c'est une peau, une main, n'importe quelle partie du corps, à condition qu'elle soit portée par le mouvement. Mmh. Tout à l'heure, j'ai rencontré Michael avant qu'on vienne vous rejoindre à la terrasse du café.
Stora, ouais.
Voilà, et en fait, spontanément, j'ai eu un élan de lui serrer la main que j'ai retenu. Donc en fait, pour répondre à votre question, c'est le toucher. C'est une passerelle, en fait. C'est une passerelle vers un élan qui est un élan de rencontre et qui prend le corps entier en mouvement.
Mais ma question était, alors Michael Stora, psychanalyste, oui. C'est comment on explique que parfois il y a un frein, c'est-à-dire que typiquement, je faisais la blague sur la bise, etc. Parfois, on n'a pas envie de toucher l'autre. Et ou que l'autre nous touche, d'ailleurs.
Oui, mais je crois que ça a été un peu évoqué. Il y a quand même une tendance dans nos sociétés... moins latine, peut-être plus, bon, encore qu'en France, nous sommes aussi latins, mais la question du toucher et de la pudeur. Mmh. Je crois que c'est très intéressant de voir que finalement, beaucoup de gens se sont rencontrés pendant le confinement par Internet, ils ont dû se voir dans le réel. Mmh. Et on voit que l'amour courtois, d'une certaine manière, est revenu en force. C'est-à-dire qu'on apprend à réapprivoiser l'autre sans forcément d'emblée le toucher comme une manière de confirmer le désir, entre autres charnel. Mais c'est évident que j'ai tendance à penser qu'en effet, la question du sixième sens, c'est-à-dire le mouvement, et oui, et toujours pour évoquer un très grand auteur qui s'appelle Daniel Stern, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle l'accordage affectif entre la mère et le bébé, mais c'est des choses qu'on peut voir à d'autres niveaux, c'est-à-dire cette sorte de conjugaison, de rythmicité dans la manière de se toucher, qui va confirmer le type de manière dont on envisage l'autre. Je crois qu'il n'y a pas une manière, évidemment, de toucher
l'autre.
Et évidemment. Donc c'est vrai que c'est important. Maintenant, je pense tout de même que la cérébralité qui a été surinvestie finalement dans notre société, à un moment, nous re-questionne, comme on a pu voir des gens qui se sont re-questionnés sur la consommation, ouais, re-questionne sur la question du toucher comme un acte de consommation.
Alors justement, Bernard Andrieux, est-ce que la période que l'on vit peut transformer nos rituels tactiles, si on le dit comme ça, même dans nos relations amoureuses d'ailleurs, durablement?
On a lancé une enquête avec plusieurs universités sur la question du port du masque, de la distanciation et notamment de l'intimité de la vie sexuelle. Donc on va faire un compte-rendu le 13 novembre, on fait une sorte d'enquête nationale et on s'est aperçu en réalité que le problème, et on a vu le changement de langage, on a parlé dans un premier temps de distanciation sociale. Et puis après, les gens ont dit, attention, distanciation sociale, ça existe déjà, hein, ça s'appelle les classes sociales. Mais en réalité, c'est la distanciation physique.
Physique,
ouais. Et donc, quand nous, on parle de reprogrammation de l'espace tactile, c'est ça. C'est-à-dire que... Par quelle entrée je vais pouvoir toucher l'autre, puisque en fait on a toute une codification de genre, on a toute une codification éthique, sociale, David le rappelait tout à l'heure, par lequel finalement on va organiser ces différents espaces, l'intimité, l'espace proche, l'espace lointain, etc. Or tout ça aujourd'hui est remis en cause, y compris de manière, on l'a vu dans le relâchement. Hein, oui. C'est-à-dire que dans le relâchement, tout le monde s'est jeté les uns sur les autres.
Les uns sur les autres, c'est ça. À se dire, faut pas le faire, mais on le fait quand même.
Donc il y a quand même ce désir de fusion et d'échange physique qui fait que finalement, on a du mal à gérer justement cette distanciation.
Et alors David Le Breton, comment est-ce qu'on gère la méfiance à l'égard de l'autre qui se transforme de fait en danger potentiel?
Mais déjà, il y a une manière de ritualiser qui nous est devenue presque commune ces derniers jours. C'est-à-dire, on voit quelqu'un, un proche, et on va pour lui serrer la main ou pour l'embrasser, et puis dire, et on se dit, oh non, pardonne-moi, j'oubliais les gestes. Bon, mais le cœur y est. Ouais. Ce qui est tout à fait une manière, finalement, d'entrer en contact et puis de nouer une relation de manière positive. Mais bien sûr, il va falloir encore maintenir une certaine distance à l'autre. Je pense que le plus périlleux en la matière, c'est plutôt le masque. Parce que tout à l'heure, Camille, vous avez évoqué le sourire, par exemple, mais le sourire, il tend quand même à disparaître singulièrement dans le monde d'aujourd'hui, puisque notre visage n'est plus là pour incarner, en quelque sorte, notre présence devant l'autre. Hein, le visage, c'est à travers lui qu'on
Bernard
est...
Bernard Andrieux n'est pas tellement d'accord.
Je termine... Je termine quand même. Notre visage, c'est le lieu à travers lequel on est reconnu, on est associé à un sexe, à un âge, etc. Et puis c'est aussi à travers notre visage que les autres, ceux qui parlent avec nous, par exemple, suivent la résonance de leurs propos en termes affectifs sur nos mimiques, par exemple. Mmh. Si quelqu'un me blesse par sa parole, eh bien mon front va se froncer, je vais prendre un air un peu particulier. Mais avec simplement, quand on a mis un masque sur son visage, il ne reste que le front et des yeux. Et ça, pour moi, ça ne suffit absolument pas pour constituer un visage. Un visage sans le nez, un visage sans les lèvres, ce n'est plus rien. Et il devient, en même temps, ce visage masqué devient extrêmement énigmatique. Il est difficile, par exemple, de savoir si un froncement renvoie à un sourire, à un agacement ou autre chose. Je pense que le masque désincarne, d'une certaine manière, nos relations avec l'autre.
Bernard Andrieux, alors vous faisiez une mimique pour reprendre les
propos de David Le Breton. Non, mais je comprends très bien, c'est dans la logique de tout le travail de David sur le visage qui est très important et qui est essentiel pour tout ce qu'il dit sur la question à la fois de l'identité, de la reconnaissance. Simplement, nous pensons, et c'est pour ça qu'on a repris le terme de Lévi-Strauss sur la voix des masques, en mettant aussi un X à voix, c'est-à-dire que, bien évidemment, depuis toujours, le visage est aussi masqué, c'est-à-dire qu'il y a aussi la question de l'apparence, la question du maquillage, la question de comment je construis un masque social envers les autres. Simplement, là, effectivement, il y a des parties qui sont cachées. Je comprends très bien ce que dit David, c'est que comme elles sont cachées, la question de l'interprétation du langage corporel. Mais en même temps, on peut dire aussi qu'il y a un déplacement C'est-à-dire que dans une certaine mesure, on s'aperçoit que le langage du corps, c'est pas simplement le visage, c'est aussi la posture, c'est aussi le mouvement, c'est aussi l'inclination. Mmh. Enfin, c'est aussi d'autres parties du corps et qu'on a eu tendance à dévaloriser.
Et donc, on doit réinventer Eve Berger.
Oui, justement, tout cet aspect, pour moi, tout ce qui est en train d'être dit pointe sur la nécessité de développer dans notre société. Précisément dans notre société qui culturellement est éloignée de toutes ces dimensions, une nouvelle éducation, une nouvelle éducabilité de la perception corporelle globale. Et ça, c'est vraiment le fruit de tous les travaux qui sont menés au CERAP sous l'impulsion du professeur Dany Bois, qui montre justement que cette sensibilité interne et globale du corps, elle est éducable et c'est le moment ou jamais de le faire.
Alors on a des messages d'auditeurs. Laurent qui nous dit « On peut respecter les gens sans devoir les toucher, c'est juste culturel. » Zaza Tagoda, joli pseudo, ça m'arrange ces gestes barrières. Je préfère un bonjour et un sourire sincère qu'une poignée de main flasque et moite. C'est pas forcément faux. Autre message, l'humanité est déjà en carence de bienveillance, de câlins et de tendresse. On voit les effets que ça a sur elle. Je doute que ce soit une bonne chose que de réduire encore tous ces contacts qui nous font nous sentir vivants et importants. Ça nous fait nous sentir vivants et importants, Michael Stora, ces contacts.
Oui, mais il y a eu des expérimentations terribles avec des bébés sur des mères qui n'exprimaient rien. Il y a eu cette fameuse histoire de penser, je ne sais plus exactement quel roi, qui pensait que les bébés pourraient naturellement parler le latin sans les stimuler. Et on s'est rendu compte qu'ils sont morts. C'est-à-dire que, et on le voit malheureusement avec des enfants qui sont dans des grandes prématurités, le manque de stimulation est un vrai souci. Et c'est évident que le stimuler par le toucher reste quand même dans notre archaïsme de notre corps, une manière de se sentir exister. Et Anzieu a beaucoup travaillé sur même le fait que ça puisse nous aider à prendre conscience qu'il y a un intérieur et un extérieur. Des ethnies africaines ont travaillé les Benkélé sur le fait que chaque bébé qui naît, comme une poterie, on va lui souffler dans tous les orifices. On s'est rendu compte qu'à l'âge adulte, ces adultes ne vont pas développer des maladies auto-immunes graves. Donc on voit que même le système immunitaire, donc c'est vrai que c'est pas innocent. Après le fait qu'à l'âge adulte, et je suis d'accord sur le jeu social et les masques que nous portons, moi qui travaille beaucoup sur l'avatar, et en même temps, moi j'aime bien cette idée, comme le dit Oscar Wilde, j'en saurai plus sur toi lorsque tu portes ton masque que lorsque tu l'enlèves. Ouais. C'est-à-dire que les masques que l'on porte dans des bals masqués sont très intéressants aussi à analyser. Et peut-être que ça fait appel aussi à de l'imaginaire.
Et on parle du toucher, de l'imaginaire. On pose cette question aujourd'hui dans le débat de midi. Peut-on vivre sans se toucher, avec quatre spécialistes du corps et des interactions sociales autour de moi? C'est formidable.
Do you want me or do you not? I heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m. It feels like summer. Happiness is a butterfly. Try to catch it like every night. It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby. I'm it on the phone like every night. Sing it for my babies on the tour life. Ah. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you.
Happiness is a Butterfly, c'était Lana Del Rey et Muriel Pérez à la programmation musicale.
Le débat du midi. Sur France Inter.
T'as bien dormi ?
Oui, oui, oui.
Bon, tant qu'on a vos râles, ça va.
C'est bien de les voir parce qu'au moins on voit laquelle mine ils ont, parce que le ton de la voix trompe quelquefois. Tandis que là, on la voit des visus et c'est quand même plus rassurant.
On a de la chance parce qu'il y a 15-20 ans, ça n'existait pas. C'est encore bien tombé. Je crois que tout le monde en est content.
Voilà, de la chance de pouvoir utiliser une tablette pour voir sa famille, dit cette résidente d'une maison de retraite. Michael Stora, psychanalyste et président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Le virtuel a été déterminant pendant le confinement et encore aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, ça fait un moment que le numérique a envahi d'une certaine manière.
Mais là, particulièrement. Enfin, évidemment. Moi, pardon, mais ma mère m'a proposé des apéros Skype pendant le confinement. J'aurais jamais pensé. Hein.
Et alors, ça s'est bien passé.
Oui, au bout d'un moment, on s'en lasse. Mais...
Je crois que c'est ça, on s'en lasse. Mais c'est évident que oui, je pense qu'heureusement que le virtuel nous a permis de rester en contact avec nos proches de manière très utilitaire. C'est peut-être là où d'ailleurs, étrangement, le numérique a retrouvé peut-être une de ses premières vocations, c'est-à-dire de servir le réel et non pas l'inverse. Néanmoins, on a pu voir à quel point de plus en plus d'êtres humains, moins spécialisés dans des jeunes addicts aux jeux vidéo, je peux vous dire que les gamers n'ont jamais été aussi heureux.
D'être en confinement ?
Ah bah oui.
Parce qu'ils ont pu jouer à
fond. Ils ont toujours été confinés et finalement le monde entier était confiné, donc aucune culpabilité. Néanmoins, c'est évident que pour des personnes, la problématique de la dimension partielle de la relation à l'autre à travers une relation audiovisuelle peut paradoxalement être un peu hystérisant. C'est-à-dire au fond dans l'idée que ça nous allume, ça donne envie parfois de traverser l'écran. Je crois que cette relation virtuelle est une relation parfois, vous voyez, ça donne envie de...
Ouais. de ça bouger. Frustre en fait.
Ça
presque.
Frustre et beaucoup de gens, moi qui travaille sur les sites de rencontres, Emma Bovary aurait adoré les sites de rencontres parce que justement elle aimait cette dimension de relation passionnelle. Et je crois que c'est peut-être là où se situe un moment, une forme de frustration terrible, ça nous allume. Et je crois que la question de la confirmation que l'autre existe simplement par le visuel, c'est qui est une vieille idée que les médias, et entre autres la télévision, je crois à ce que je vois, mais on sait que d'ailleurs ils touchaient aussi, je crois. C'est que c'est pas simplement une confirmation de l'autre. Mais c'est évident que ça a permis à beaucoup d'êtres humains de pouvoir sûrement combler la solitude, puisqu'on parle de... Beaucoup de gens ont été seuls pendant le confinement chez eux.
Et justement, F. Berger, si on revient aux personnes âgées, le toucher, le contact est particulièrement important pour ces personnes ?
Oui, tout à fait, parce que chez les personnes âgées, en fait, le processus de vieillissement entraîne une dégradation partielle, plus ou moins importante, des différentes modalités sensorielles, de l'ouïe, de la vue, la peau se transforme, donc le toucher devient d'autant plus important. Ce sont des personnes qui, si en plus, s'y greffent un problème de dégénérescence cérébrale, par exemple, ou vasculaire, peut s'y greffer une perte de la spatialisation, du repérage dans l'espace et dans le temps, d'où l'importance prioritaire que prend le toucher dans ces cas-là. Tout à l'heure, Michael parlait des fonctions du toucher. C'est la première modalité qui, dans la vie fœtale, construit en fait la conscience de soi et du monde et du soi, de soi relativement au monde, puisque c'est le toucher de la paroi utérine qui ne renvoie pas au fœtus la même information que le toucher de son propre corps. Et c'est comme ça qu'il commence déjà à s'identifier par rapport à un environnement. Et c'est comme si, dans le vieillissement, en fait, chez la personne âgée, très âgée, on retrouve finalement comme si ce sens du toucher revenait au premier plan, voilà, et d'où aussi toute l'importance et tout le drame qu'ont vécu les personnes isolées dans les EHPAD.
David Le Breton, quand vous voyez ces images qu'on a vues partout, hein, de personnes âgées qui étaient coupées complètement de leur famille et pouvaient les voir à travers un écran, ça vous inspire quoi ?
Bah, évidemment, c'était nécessaire de nouer cet échange à travers l'écran, donc retrouver un contact, entre guillemets, même s'il était médiatisé par l'écran. Mais je pense en même temps, évidemment, que c'est un moindre mal, que c'est un contact par défaut, parce que rien ne vaut le contact face à face, corps à corps, voix à voix, et puis avec cet impératif du toucher chez des personnes âgées, en effet, je pense que là, c'est très important, puisque le toucher est aussi le sens de la liberté. limite, et de ce que je nommerais la limite de sens. C'est-à-dire, pour savoir qui l'on est, il faut toucher le monde, il faut le sentir par tout son corps. Et d'ailleurs, et Michael le sait bien, dans toutes les conduites à risque de nos jeunes, il y a ce contact brutal, cette manière de rechercher la violence du monde à travers les scarifications, à travers parfois la violence physique et autres. Là, je suis dans un contexte évidemment un peu plus douloureux s'agissant des conduites à risque de nos jeunes, mais qui est aussi assez révélateur d'un point de vue anthropologique du besoin que nous avons quand même de toucher le monde, de savoir où commence et où finit notre souveraineté personnelle. Et les personnes âgées, comme l'a très bien rappelé Ève, sont dans une sorte de... progressivement, elles s'éloignent, elles perdent une part de leur sensorialité, et le toucher va être une manière de les ramener à elles, de les faire se sentir à nouveau vivantes, réelles, dans leur corps.
Que dit le philosophe du corps que vous êtes, Bernard Andrieux, par rapport à ça? Est-ce que, j'ai une question, l'expérience physique est survalorisée aujourd'hui?
En tout cas, elle n'est pas, bien sûr qu'elle est nécessaire. Je crois que David a raison de rappeler cette dimension nécessaire de l'activité physique. Mais en fait, on est dans une société de plus en plus hybride, hein, c'est-à-dire une société dans laquelle on va hybrider plusieurs types d'expériences. Et on voit effectivement que chez ces personnes âgées qui ont une culture tactile, une mémoire sensorielle, finalement, qui leur sert de repère, la difficulté à reprogrammer, hein, ça. Parce qu'ils n'ont pas été élevés. Hein. On parle de nos amis geeks adolescents. Eux, ils sont, voilà, quand ils vont être dans des EHPAD.
C'est-à-dire que ce sera plus facile pour vous,
ils vont être dans des EHPAD avec des consoles, etc. Et ils savent ce que c'est, on imagine ce que ça va être, les EHPAD dans 50 ans. Mais je veux dire, cette culture de l'hybridation, ça a été quand même un point, entre guillemets, positif du confinement. En tout cas, nous, dans le télétravail. Il y a aussi l'idée, finalement, que il y a des aspects positifs et il y a aussi des aspects négatifs. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a vu aussi affaire à des comportements de gens qui font des choses en télédistance qu'ils feraient pas en présentiel physique, parce que dans la dimension physique, eh bien, il y a le face à face, il y a la possibilité de se lever et d'aller dire à la personne ce qu'on en pense. Voilà, il y a cette dimension de la physicalité du pouvoir et de la relation qui tend à diminuer, parce que il y a on en parlait tout à l'heure avec Michael, il y a des chefferies qui se sont révélées, des dysfonctionnements dans les processus de décision. Donc, l'apprentissage de cette hybridation, c'est complexe et ça suppose bien évidemment que il y ait une éducation qui soit mise en œuvre, et les personnes âgées, finalement, on les a vues aussi mettre des mains sur des vitres, hein, pour pouvoir toucher de la main, alors qu'en réalité, il n'y avait pas d'expérience physique, mais il y avait l'effet qu'on va se rappeler finalement ce contact.
Michael Stora, vivre sans contact physique, ça bouscule donc la vie, évidemment, quotidienne de beaucoup, ça bouscule aussi le travail des soignants, par exemple, ça bouscule le quotidien des malvoyants. Le virtuel là peut rien y faire. C'est comment on pallie tout ça?
Non, le virtuel peut évidemment. Alors je connais pas toutes les technologies. Vous évoquez par exemple les aveugles. Je crois qu'il y a des technologies qui permettent en effet de pouvoir se repérer, parce qu'il y a un surinvestissement entre autres de l'auditif. Mais c'est évident que le virtuel a ses limites, et je dirais qu'étrangement, moi qui ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là et ça me passionne. J'ai tendance aussi à penser que finalement, il faut aussi remettre à sa place quelque part le virtuel ou les outils numériques. Et je crois qu'en effet, moi qui travaille avec ces jeunes qui en oublient leur propre corps, hein, et les pathologies sont toujours très intéressantes pour mieux saisir. Mais la très grande majorité des adolescents, et David l'a évoqué, la problématique en effet de la scarification, c'est-à-dire le fait que les rituels passent par, en général, par le fait de marquer le corps et que ça soit reconnu. Mmh. Et on voit bien comment, entre autres, on l'a pu le voir lors de la fête de la musique, cette génération, à un moment, a lâché prise et eu un besoin irrépressible de se toucher. Oui. J'ai moi-même, à un moment, dit, mais au fond, avec le confinement, nous avons vécu une forme de mélancolie, c'est-à-dire avec de l'anxiété.
La mélancolie du toucher.
Ouais, une mélancolie du toucher, mais aussi, vous savez que dans la mélancolie, il y a aussi de la persécution. Hein, et à un moment, il y a ce qu'on appelle cette deuxième phase, qui est la phase maniaque, d'une excitation qui permet de se libérer, finalement, de cette tendance profonde qui nous a marqué et qui nous a empêché. Et c'est vrai que quand on a vu tous ces jeunes faire tournoyer leur masque au-dessus de leur tête et se prendre dans les bras, on ne pouvait condamner et en même temps, moi en tant que psychanalyste, je ne pouvais que comprendre cette jeunesse qui avait besoin de se retrouver et je crois que c'est terrible et moi-même père d'ado, j'ai pu voir, il a été très sage pendant le confinement et après il a eu besoin de voir ses amis avec un besoin de reprendre contact avec eux
mais
à tous les niveaux.
Les adolescents sont pas les seuls, Eve Berger, nous tous je pense on était contents de pouvoir revoir en vrai et de toucher certaines personnes.
Moi j'ai remarqué comme tout le monde j'ai travaillé par visio et j'ai continué mes accompagnements et mes coachings par visio pendant la durée du confinement. Et en fait, j'ai observé vraiment deux choses qui pourraient paraître opposées, contradictoires et qui en fait sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que, bizarrement, tout à l'heure Bernard le disait un petit peu, les personnes à distance m'ont livré une forme d'intimité dans les séances d'accompagnement qu'ils ne m'avaient peut-être pas livré
en présentiel.
Il y a des personnes, certains de mes clients qui m'ont fait visiter en visio leur appartement, qui m'ont montré leur décor dans lequel ils vivaient, qui m'ont confié des choses de leur vie personnelle qu'ils ne m'avaient jamais confiées, bizarrement. Et en même temps, se retrouver en présentiel a été une joie infinie et dès que ça a été possible, ils ont accouru en présentiel. Et donc, il y a quelque chose là qui est, je dirais, comme une espèce de double mouvement qu'a produit ce confinement. Quelque chose qui, à la fois, tend à resacraliser le contact physique, à le redécouvrir, à le revaloriser. Et en même temps, comme à le transcender, à l'élargir, à le nuancer.
Justement, David Le Breton, la situation que l'on vit, cette distance et même les masques que vous n'aimez pas tellement, est-ce que finalement, elle pourrait pas nous rapprocher les uns des autres ?
Bien, en tous les cas, nous devons faire une preuve d'inventivité finalement dans nos relations avec les autres, puisque nous avons perdu nos anciens usages de salutation, de prise de congé, etc. Donc on essaie d'en inventer d'autres avec plus ou moins de finesse ou avec beaucoup d'humour aussi, avec la voix. On n'a pas beaucoup parlé de la voix, mais je pense que la voix est en train de
changer,
prendre un... Oui, quand on a plus le visage, vous voyez, quand le masque dissimule notre visage, c'est aussi, dont Bernard l'a évoqué tout à l'heure, il y a évidemment toutes les postures du corps, etc., mais qui sont très polysémiques, hein, qui renvoient à des significations qui peuvent être difficiles à saisir. En revanche, la voix, notre intonation de voix, quand on parle avec quelqu'un, donne une indication très précise sur ce qu'on ressent. Alors en ce moment, je crois, on est très très attentif à la voix de l'autre, à son regard, sans doute aussi, à ses gestes, etc. Je pense que parfois, ça nous éloigne des uns, ça nous rapproche des autres. Je crois d'ailleurs qu'il ne faut pas penser le monde dans l'exclusion, c'est-à-dire soit c'est le virtuel, soit c'est le physique. Je crois qu'il faut penser le monde dans l'inclusion, non plus dans le où c'est ça, mais plutôt dans le c'est ça, et ça, et ça, et encore autre chose, etc.
L'hybridation dont vous parliez, Bernard Andrieux.
En même temps,
pour reprendre une fameuse expression. Bernard Andrieux, vous me disiez juste avant l'émission, il y a quand même des conséquences. Cette société du sans contact aussi à l'organisation, notamment, vous m'expliquiez quelle pagaille c'était par exemple à l'université de Paris où vous travaillez.
Dans toutes les universités.
Hein, partout, pas, même au travail. Hein.
En fait, on est dans une situation complètement paradoxale, puisque d'un côté, on autorise les corps à corps, le mélange des corps, Michael le rappelait, dans les bars, dans les rues, etc.
Officiellement, il y a quand même des distances qui sont respectées.
Officiellement, hein. Mais en fait, quand vous regardez concrètement comment ça se passe, Et il y a cette pasteurisation finalement institutionnelle qui est en train de se mettre en place, hein, logique de biopouvoir, de comme disait Michel Foucault, de contrôle hein, finalement des corps avec la question à distance, fait qu'aujourd'hui on va se retrouver une situation hybride. Un terme officiel hein, utilisé par le ministère, dans lequel finalement nous allons faire des cours devant 10 étudiants et il y en aura 450 qui seront chez eux éventuellement, qui écouteront les cours. Donc on va vivre une rentrée tout à fait avec, là comme disait David, des différents niveaux vraiment de toucher, c'est-à-dire qu'on pourra faire le cours devant 10 personnes dans un cours qu'on appelle traditionnellement magistral et en réalité aussi s'adresser. Et la question de la voix est assez vraie puisqu'on a utilisé des consoles justement comme Discord qui permet justement à la fois d'avoir une caméra, la voix et aussi écrire. Ouais, ça, c'est très intéressant.
Michael Stora, est-ce que l'être humain sait s'adapter vite et bien ?
Oui, je pense que l'être humain s'adapte, évidemment, et c'est très intéressant de voir que la question des cours en visio, voire même, j'ai eu moi-même des patients en visio, personnellement, je préférais le téléphone. Je pense que le problème avec la visio, c'est que l'image devient une apparence. Et comment est-ce qu'on peut se concentrer simplement sur une apparence ? C'est très compliqué. Il y avait déjà des problématiques de concentration chez les étudiants dans les cours magistraux, mais c'est vrai qu'en effet, ça repose la question de la distance, de l'appropriation du savoir.
Allez, on entre dans la dernière ligne droite de ce débat de midi.
Décroche-toi, sans tomber, les astres parlent de désastre, l'instant irréversible. Je ne suis qu'un passager, mal à l'aise ici. Pardonne-moi d'être tête en l'air, je t'agace à me laisser aller, mon utilité inutile. Je me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis bien, éloigne-toi. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune.
Réversible, c'était la voix de Malik Djoudi.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et le temps qui s'écoule, lui, n'est pas réversible. Une question donc à mes invités avant de se quitter. Le meilleur geste ou le pire, je ne sais pas en ce moment, pour se dire au revoir, lequel ce serait ? David Le Breton, tiens.
Lever la main et puis s'incliner un petit peu, comme font les Asiatiques.
Bernard Andrieux.
Je crois qu'on peut toucher d'autres parties du corps. C'est-à-dire on n'est pas obligé de toucher des parties contaminantes. On peut se toucher le pied, on peut se toucher le coude. Enfin, il y a plein d'autres gestes qui sont apparus.
Michael Stora.
Oui, je crois que évidemment, il y a tous ces... on peut réinventer plein de gestes pour se dire au revoir, tout en sachant que c'est toujours... parfois désagréable de se dire au revoir. Donc finalement, même avant, on ne vivait pas toujours très bien.
F. Berger, enfin, le pire geste peut-être, sinon, celui qu'il ne faut pas faire pour pas de malentendu.
Ah non, ça je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne peux que donner le meilleur, celui qui est porteur de vie. J'ai envie de dire, écoutez, mettez-vous en présence dans la relation à la personne à qui vous êtes en train de dire au revoir et laissez la liberté intérieure et la spontanéité de votre corps vous offrir le geste du moment.
Eh bien, merci à tous les quatre et moi j'ouvre les bras pour vous remercier. Et je rappelle à mes amis auditeurs qu'il y a le répondeur de France Inter 01 56 40 68 68. Tous vos messages sont les bienvenus et j'ouvre les bras aussi pour vous le dire. Et restez encore un petit peu, puisque comme tous les mardis, on jette un œil au site du Huffington Post en compagnie de Louise Vesbécher aujourd'hui. Bonjour Louise.
Bonjour Camille.
Chef du service culture, vous nous parlez d'un film dont la sortie fait beaucoup parler. J'ai nommé Tout simplement Noir.
Exactement, ce film Tout simplement Noir, c'est une comédie qui est réalisée par Jean-Pascal Zadi et qui sort demain au cinéma. Jean-Pascal Zadi, il joue un peu son propre rôle dans cette histoire, celle d'un comédien un peu raté qui décide d'organiser la première marche de contestation noire. Et pour ça, il a besoin de rallier un maximum de personnalités à sa cause. Donc il y a dans le film Fabrice Eboué, Farid, Omar Sy, Claudia Tagbo, mais aussi Soprano, qui jouent tous leur propre rôle. Et en fait, Jean-Pascal Zadi, avec qui j'ai échangé lors d'une interview, il profite clairement de ce film pour révéler un petit peu tout ce qui coince dans le cinéma et plus largement en France lorsqu'on parle de la question de l'identité noire.
Alors justement, qu'est-ce qui coince? Quelles idées reçues ce film veut montrer du doigt?
Alors la première chose, c'est pas une idée reçue, en fait c'est un fait. Le fait que les rôles qui sont attribués aux acteurs et aux actrices noires, ils sont encore trop souvent négatifs. Jean-Pascal Zadi me disait, en fait, l'imaginaire actuel des réalisateurs et de certaines productions françaises font que quand tu es noir, eh bien, tu es vigile, homme de ménage ou dealer. Ça, c'est un constat que fait aussi le CSA dans son Observatoire de la diversité de la télévision française. Un autre point qu'il évoque, c'est que très vite, lorsqu'un film a un casting en grande majorité noir, eh ben, très vite, certaines critiques disent que c'est un film communautaire. Lui, il répond qu'en fait, quand sortent Casting ou Les Petits Mouchoirs, pour le coup, deux films avec un casting 100% blanc, on ne dit pas que c'est un film communautaire. Cette discussion, elle a même pas lieu. Peut-être un dernier point qu'il évoque avec son film, c'est la question des mots qu'on emploie. C'est d'ailleurs tout le sens de ce titre, Tout simplement Noir. Pour lui, il faut oser dire le mot noir et le préférer d'ailleurs à Renoir ou Black, qui ont parfois l'air plus cool pour certains. Pour le réalisateur, voilà, noir, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot péjoratif. Il faut qu'on ose le dire pour nommer justement ces discriminations qui existent et ensuite pouvoir les combattre.
Et toutes ces questions, évidemment, on en a entendu parler ces dernières semaines, hein, Louise.
Ouais, complètement. Il y a eu évidemment ces marches contre le racisme, contre les discriminations. Et puis derrière tout ça, en fait, il y a l'idée qu'il faut aujourd'hui que tout le monde puisse prendre la parole, s'exprimer et raconter son histoire. Au cinéma, depuis toujours, en fait, des Blancs se sont appropriés les histoires des autres. C'est tout le débat qu'il y a eu sur Autant en emporte le vent il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on prend conscience de cela, on contextualise les œuvres anciennes, c'est ce qui a été fait pour Autant en emporte le vent, et puis on écoute les histoires racontées par des réalisateurs et des réalisatrices noires. C'est ce que fait Jean-Pascal Zadi avec son film, et en fait, c'est ce que font aussi dans d'autres registres à Hollywood, Spike Lee ou Ava DuVernay.
Merci beaucoup Louise Vesbécher. Donc article à retrouver en cliquant sur le site du Huffington Post aujourd'hui. Et ce débat de midi est déjà terminé. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Il sera question des riches. Très bon après-midi.